René Crevel, Le baiser aux morts. Blotti dans un coin du lit trop grand, Lucie a froid d'être seule. Elle est malade. Depuis bien des nuits, la fièvre l'a condamnée à l'insomnie. Dans l'obscurité, personne à côté d'elle pour la défendre dans les cauchemars qu'elle rêve tout éveillée. Demain, heureusement, son mari, enfin de retour d'un interminable voyage d'affaires, sera près d'elle. Il la prendra dans ses bras, doucement, doucement, comme une enfant qu'on veut consoler. Alors elle n'aura plus peur. Et déjà, elle goûte la joie du retour. Quand une appréhension la saisit, soudaine qui la torture, la souffrance a flétri sa beauté, et son mari, à l'avoir déchu de son charme physique, s'éloignera peut-être. Les malades inspirent toujours de la répulsion. L'évidence de cette vérité, elle l'a constatée du temps qu'elle était bien portante. Elle s'arrangeait pour fuir leur présence. Et maintenant, c'est elle qui est en but ininterrompu pour fuir l'obsession du dur souvenir. Elle les revoit tous tels qu'ils étaient, avec leur laideur dont jamais elle n'a pu avoir pitié. Et dans la pénombre, leurs silhouettes vont à pas feutrés, ridicules et douloureuses, mannequins en robe aujourd'hui ironiquement offerte à son choix, tissu de détresse et d'angoisse. Parmi eux, il en est un dont les traits se font plus nets, l'allure moins falote, Daniel, son premier fiancé, semble sortir du linceul, reprendre l'indéniable réalité des vivants. Il lui apparaît comme au dernier jour de sa vie, avec une pâleur de moribond, des mains diaphanes, dont elle redoutait les caresses moites. De tous les malades qu'elle a connus, c'est de celui-là, le mieux aimé pourtant, qu'elle a eu le plus horreur. Et c'est lui, celui-là, qui revient toujours, comme font la mince nasse de quelque posthume vengeance, au temps où il était beau, ainsi qu'un jeune lord, couvert et de maintes manches relevées sur les muscles longs des bras. Elle avait subi sa séduction, mais du jour devenu tuberculeux, toute son harmonieuse beauté s'était flétrie, et Lucie, incapable vraiment de douter, comme une involontaire et puissante répulsion. Et quand ses lèvres, quand de ses lèvres il baisait seulement le bout de ses doigts, un frisson la prenait aux ongles, qui montait le long des bras et s'épandait au plus intime de son être. Ainsi elle en était venue à une totale horreur pour ce fiancé grelottant sous ses couvertures, déchiré de doux rauques. Et le soir où on lui annonça le décès de Daniel, elle fut presque joyeuse. Mais le jour de la mise en bière, lorsque, devant la famille, à santé semblait, ce fut son tour d'embrasser le cadavre, un dégoût la secoua, tout entière. Déjà, ses lèvres le touchaient presque, quand un sursaut de révolte se releva sans avoir mis le front habituel faire dire le baiser à Dieu. Maintenant, Il lui semblait qu'à la revoir malade, son mari s'éloignerait d'elle, comme elle s'était éloignée de Daniel, sans un mot, sans une caresse. Cette pensée lui fait mal, l'empêche de dormir, et pourtant, il faut qu'elle se repose, pour ne pas avoir les traits tirés, pour pouvoir plaire encore. Alors elle ferme les yeux. Tic-tac, tic-tac, la pendule bat très fort. Dans sa tête, qui s'efforce à ne plus songer, chaque battement est un choc dont elle souffre. Tic-tac, tic-tac, un coup n'est qu'une seconde. La nuit sera interminable. Elle ne pourra même pas s'assoupir. Alors elle va allumer sa lampe, prendre un livre. Elle ne sera plus seule quand il sera clair. Elle ouvre l'électricité. Mais dès qu'elle se tourne, une image entrevue dans la glace la laisse bégayante de peur. Elle a vu sur ses épaules une tête exsangue, la tête affreuse du mort qu'elle ne pourra pas oublier. Elle a vu la tête de Daniel. Elle a vu, dans son horreur, elle reste de longs instants sans faire un geste. Puis pour mettre un obstacle entre elle et cette vision, elle porte sa main à ses yeux. À nouveau l'obscurité, elle relit ses idées, elle comprend. Oh, elle a eu une hallucination. Elle rit de sa frayeur. La tête de Daniel mort sur ses épaules, mais c'est la folie. Elle, Lucie, elle est vivante, bien vivante. Il ne peut pas y avoir la tête mort sur ses épaules. Oui, elle a beaucoup maigri. Ses traits se sont creusés, mais quand même. Son visage ne peut pas ressembler au visage de Daniel, à ce visage qu'elle n'a pas eu la force d'embrasser. Elle est rassurée. À nouveau, elle se penche sur son miroir. Mais tout l'effroi renaît. Ses yeux sont pâles, sans vie, au milieu des cernes et des meurtrissures de l'insomnie qui les rend plus vieux encore. Toute sa peau est collée aux os, ses cheveux massés en arrière pour une coiffure de nuit sans coquetterie font paraître démesurément haut le visage découvert et son profil s'accentue. Un profil décharné, avec des narines presque transparentes. Elle a peur, si peur d'elle-même, qu'elle passe à son cabinet de toilette pour arranger sa pauvre figure. Elle met du rouge, ou beaucoup de rouge, sur les joues et fait bouffer ses cheveux par ses bijoux. Et cela sans même regarder dans un miroir, comme si elle voulait avoir d'un seul coup sa toilette finie, un apaisement à sa hantise, par une soudaine et fatale, totale apparition de beauté retrouvée. Mais quand elle revient dans sa chambre, c'est toujours la même tête, non pas hideuse seulement, mais ridicule. On croirait que c'est à même les os qu'elle a mis le fard, un collier sur la poitrine et des bracelets aux bras la rendent grotesque comme les momies, conservés avec tout l'attrait de leur coquetterie. Quand même, elle ne peut pas croire. Et pour ne pas être sûre, Elle s'approche, elle se penche jusqu'à ce que sa tête, appuyée au miroir, elle sent un frisson et un froid, aussi froid que la mort. Ses lèvres saignent de s'écraser contre d'autres lèvres glacées, comme des lèvres qu'elle reconnaît, mais qui sont bien celles de l'autre, de Daniel, et qui prennent en sa cruauté d'une caresse sans chaleur le baiser qu'il aurait dû, le baiser qu'on doit aux morts.